Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca pour cette édition du 14 mai 2026. Sortez tambours et trompettes, chers auditeurs et auditrices, car après plus de 2 mois en formule duo, notre trio de choc...
Oh, le jeu de mots ici, là.
Est enfin de retour. Alors, vous entendez Simon.
Salut Marie-Ève.
Salut, qui est en studio avec moi.
Oui, je me demandais vraiment où tu voulais en venir avec tes tambours. j'ai compris.
Non, c'était pas pour la Saint-Valentin, là, ou je sais pas quoi. Alors, Simon qui est à mes côtés en studio, comme je disais. Mathieu, lui, qui assure la mise en onde pour l'instant.
Oh oui, madame.
Et il assurera, croyez-en mon expérience. je dis vraiment n'importe quoi.
Je suis d'accord.
Et ça promet pour ce retour. Je vous rappelle que les Apatrides Anonymes, c'est votre rendez-vous bimensuel pour une revue des actualités nationales et internationales sur les questions migratoires et autochtones et tout ce qui touche à l'extrême droite, au racisme, à l'obsession sécuritaire et au régime despotique et plus encore. Mais aussi, on vous parle des mouvements de résistance et de solidarité qui font que malgré tout ça, ben on garde encore une petite confiance en l'humanité. Pour cette première émission de la saison estivale aussi à choc, pour ce qui est de nous en tout cas, on va se promener autour de la Méditerranée avec Simon, n'est-ce pas?
Oui, Italie, Chypre, Libye, Algérie, entre autres.
Parfait, puis tu vas aussi nous offrir un florilège, mon Dieu, j'aurais pas dû choisir ce mot-là.
De nouvelles... Florilège.
Florilège de nouvelles d'ici en lien avec l'immigration.
Eh oui, la CAQ est toujours au pouvoir, donc on va parler entre autres du nouveau ministre de l'immigration.
Bon, mais de toute façon, si après ça, c'est le PQ, hein, nous ne serons pas en reste.
On va suivre, en tout cas.
Donc, Mathieu, lui, tu vas nous parler de la liberté de presse dans le monde, qui est... passablement malmené hein, par les temps qui courent.
Oui, le dernier palmarès de RSF qui est sorti la semaine passée. Je vais parler de l'aide internationale canadienne qui diminue de façon drastique sous le très grand progressiste Mark Carney. Et je vais parler aussi du rapport annuel d'Amnesty International. Et je vous parlerai aussi des États-Unis parce qu'il se passe des choses au niveau de l'immigration aussi, hein, pas
ben
juste
oui.
À l'international. Ouais.
Oui, c'est pas parce qu'ils bombardent ailleurs que...
Ils font pas de répression à l'intérieur.
Exactement. Et puis, ben pour ma part, en plus de l'agenda antiraciste, je vais parler des travailleurs agricoles migrants au Maroc, de la régularisation des sans-papiers en Espagne et de changement à la citoyenneté canadienne. Donc, Mathieu, t'es prêt à nous partir ça?
Oui.
Alors, on commence en force en Italie avec sa présidente Giorgia Meloni qui ne cesse de repousser les limites de la bêtise humaine. Le 24 avril, elle a réussi à faire adopter par le Conseil des ministres sa loi d'urgence sécurité, autrement dit un décret, qui comporte, tenez-vous bien, une prime qui pourrait s'élever à 615 € pour les avocats qui encouragent leurs clients exilés, dont la demande a été rejetée, à s'engager dans un programme de rapatriement volontaire.
Ah bon?
Et comme si c'était pas assez, le Conseil des ministres a tout bonnement élargi la prime aux organisations à but non lucratif également, qui encouragent les personnes migrantes qui font appel à leur aide. La mesure prévoit que les avocats, reçoivent la prime seulement après le départ de leurs clients. Et pourquoi 615 €? Eh bien, cette somme-là correspond très exactement à l'aide financière pour les besoins essentiels qui est offerte aux nouveaux arrivants en Italie.
Ah, c'est du donnant-donnant.
Ouais, du donnant-donnant, sauf qu'il y a des poches plus pleines que d'autres. Hein?
Mais il n'y a pas de prime comme en Suède qui est donnée aux immigrants ou aux migrants qui partent de leur propre chef?
Oui, mais ça, c'est autre chose.
OK. Ouais. Donc, c'est une nouvelle mesure supplémentaire.
Exactement.
OK.
La mesure est considérée comme expérimentale et doit donc durer 3 ans jusqu'en 2028. L'enveloppe prévue par le gouvernement est de 246 000 euros cette année. Puis après ça, supposé monter à 292 000 euros en 2027 puis en 2028. Évidemment, la mesure est vivement contestée par les avocats et magistrats du pays qui la considèrent contraire à la déontologie. Le Conseil national du barreau, qui a été désigné par la coalition de Meloni comme gérant administrateur de la prime, a déjà déclaré qu'il assumerait pas ce rôle-là. Mais encore plus absurde, le Conseil affirme n'avoir jamais été informé de cette implication-là, ni avant la présentation de la loi, ni pendant le processus, ni après l'adoption. Donc, le Conseil de l'Union des chambres criminelles, lui, qui représente les avocats pénalistes, a déclaré que, et je cite, « un avocat ne peut être rémunéré pour obtenir le résultat souhaité par l'État. Il doit assister son client en toute liberté et indépendance », comme si on avait besoin de le répéter. Il y a aussi l'Association nationale des magistrats qui, elle, est consternée particulièrement parce que la loi lie la prime à l'échec de la défense, dans le fond, ce qui non seulement est contraire au droit, mais surtout défie toute logique. Elle rappelle que la protection du droit à la défense constitue une garantie essentielle de l'état de droit. Il y a aussi un professeur de droit privé comparé à l'Université de Palerme, Mario Serio. Lui, il passe pas par quatre chemins. Il dit ceci, « L'avocat est le garant des droits de son client et non un agent du gouvernement. » Donc, la loi affaiblit aussi le droit à la défense des personnes migrantes contre l'expulsion. C'est que l'article 29 de la nouvelle loi supprime la disposition de la loi italienne qui garantissait une aide juridique gratuite pour les non-ressortissants de l'Union européenne dans le cadre des recours contre l'expulsion. Et donc là, toute personne qui conteste son expulsion va maintenant devoir se conformer à ce qu'on appelle là, les règles ordinaires de l'aide juridique gratuite, c'est-à-dire démontrer qu'elle remplit les conditions de revenus. Sauf que le problème, c'est que pour une personne qui est en transit ou en détention administrative, souvent sans dossier fiscal en Italie, c'est un peu compliqué, ça risque d'être impossible à cause de la longueur de la procédure judiciaire aussi. Et finalement, la loi élargit aussi les pouvoirs des préfets et des forces de l'ordre pour détenir, identifier et rapatrier les migrants en situation irrégulière. Alors voilà, je te passe la POC, Simon.
Bravo au gouvernement italien pour toutes sortes d'initiatives qui vont être cassées parce que complètement contraires à toutes les bonnes règles et pratiques.
Oui, du droit...
Droit, c'est ça. Fait que je vais commencer avec, moi, des catastrophes migratoires dans les dernières semaines sur la Méditerranée. Et je vais conclure mon segment avec des actualités un peu plus politiques à Chypre et en Italie aussi, mais je recouperai pas ce dont tu viens de nous parler. On remonte au 18 avril, alors que 29 corps de personnes migrantes ont été retrouvés échoués sur la côte libyenne. La plupart n'ont toujours pas été identifiés à ce jour, mais on sait que c'est la conséquence de deux naufrages distincts qui avait été signalé par les ONG de sauvetage. La plupart des catastrophes ont maintenant lieu sur une route migratoire qui est en développement assez rapide depuis quelques mois, la route maritime de Tobrouk, une ville qui est à l'est de la côte libyenne à partir de laquelle les gens cherchent à atteindre la Crète, et d'autres îles grecques de moindre importance, alors que les routes maritimes à partir de la région de Tripoli ou autour sont surtout à destination de Lampedusa et d'autres îles italiennes. Parmi les morts, beaucoup d'hommes d'origine subsaharienne, beaucoup d'Égyptiens aussi, puisque dans la région de Tobrouk, on est proche de la frontière avec l'Égypte. Mais parmi les rares personnes identifiées, il y avait un ressortissant bangladais aussi, donc je laisse imaginer son parcours migratoire du Bangladesh à destination de l'Europe, retrouvé mort sur les côtes libyennes. C'est quand même assez impressionnant, mais pas si exceptionnel non plus. Quelques jours après, toujours en Libye, on faisait le bilan de ce même week-end du 18-19 avril. Plus de 700 migrants interceptés en mer par les gardes-côtes libyens et ramenés sur la terre ferme pour y être premièrement pris en charge par le Croissant-Rouge, dont je tiens à souligner le travail de première ligne. Ensuite, la plupart, une fois pris en charge, la plupart seront indéfiniment détenus, puis éventuellement renvoyés vers le sud pour ceux et celles qui n'auront pas été vendus à des réseaux de trafic humain, puisque les conditions des migrants en Libye ne s'améliorent pas du tout.
Non.
Selon les rapports les plus récents qu'on peut lire sur le sujet, dont un rapport du Haut Commissariat sur les réfugiés qui a été publié en mars et qui fait état non seulement de la poursuite des atrocités constatées depuis des années, mais de leur ampleur sans précédent, puisque ces interceptions de migrants en mer augmentent année après année, étant donné les ententes entre la Libye et plusieurs gouvernements européens.
Et l'Union européenne aussi.
L'Union européenne et des États européens. Il y a vraiment une multiplicité d'ententes. Et ces ententes-là donnent une souveraineté pratiquement complète aux gardes-côtes libyens sur une grande partie de la Méditerranée, même en eau européenne. D'ailleurs, pour ces travailleurs humanitaires du Croissant-Rouge et autres ONG sur place, ça doit être particulièrement déprimant. On soigne les migrants, on les réconforte, on les nourrit et ensuite, on les renvoie dans l'enfer libyen. Donc, il doit y avoir parfois un sentiment d'impuissance ou de faire un travail qui ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Bref, je poursuis mes actualités méditerranéennes un peu plus à l'ouest. Quelques jours plus tard, le 24 avril, 12 Somaliens et 5 Somaliennes mouraient noyés au large des côtes algériennes à destination de l'Espagne sur une autre route en fort développement. On vous en a déjà parlé, c'est la route des Baléares. qui, il y a quelques mois à peine, était surtout fréquenté par des migrants algériens et un peu des pays maghrébins voisins, mais avec des naufragés somaliens, comme dans ce cas-ci, on constate l'internationalisation de cette route. On passe du 24 au 27 avril sur cette même route des Baléares, l'équipage d'un bateau de croisière, le Saphir Princess, découvrait 5 corps à la dérive. Ils n'ont pas non plus été identifiés, mais on pense qu'ils font partie d'une cohorte de 18 personnes qui étaient sur une embarcation dont on avait perdu la trace, avec potentiellement 13 autres personnes disparues qui sont sûrement décédées aussi.
Oui, c'est ça, parce que à part les personnes qu'on retrouve, il y a tous les corps qu'on retrouve jamais, là, qui disparaissent.
Oui, dont on ne sait pas toujours le nombre non plus.
Oui.
Deux jours plus tard, le 29 avril, on revient en Libye, où c'est le Croissant Rouge qui a fait une macabre découverte en mer. Petite parenthèse, le Croissant Rouge dispose de petites embarcations de surveillance, rien de comparable au Sea-Watch ou autres gros bateaux de sauvetage, mais ça permet à son personnel de surveiller certaines zones maritimes proches des côtes, autour des points d'embarquement surtout, sans nécessairement se rendre en haute mer.
Ouais.
Bref, ce sont 17 cadavres et 7 survivants qui ont été découverts dans une embarcation en détresse. Les 7 survivants étaient entassés avec les cadavres depuis plusieurs jours.
Oh,
une situation vraiment cauchemardesque.
Ouais.
Si le croisement des informations est exact, il y avait 42 personnes à bord au moment de l'embarquement. Donc, aux 17 morts, il faudrait ajouter 18 disparus, probablement décédés aussi. Donc, vous voyez, plusieurs fois par semaine, on a des dizaines, voire des centaines de personnes décédées, disparues ou ramenées vers la Libye. C'est un printemps difficile et je ne me suis pas penché sur l'actualité des tout derniers jours, mais on peut présumer que ça se poursuit au même rythme. Je voulais garder un peu de temps pour des brèves d'actualité, mais plus politiques.
Ben, surtout que la météo est plus clémente. Est supposée être plus clémente, en tout cas, au fur et à mesure que le temps avance.
Elle est plus qu'en février ou mars, là, c'est sûr.
Ça.
Donc, je vais commencer avec Chypre pour des actualités plus politiques. Sur la partie grecque et non la partie turque de l'île, dont le nombre d'expulsions de migrants a atteint plus de 12 000 en 2025, ce qui fait en sorte que le pays renvoie maintenant plus qu'il n'accueille. 12 029, c'est le chiffre officiel du gouvernement chypriote qui amalgame sans qu'on sache dans quelle proportion les expulsions forcées et les retours dits volontaires. Expression qu'on met toujours entre très gros guillemets. Cette statistique concerne par ordre d'importance les migrants originaires de Syrie, de l'Inde, du Nigeria, du Pakistan, du Népal et du Bangladesh.
Okay.
Un chiffre record, donc, malgré le fait que par rapport à 2022, les arrivées irrégulières ainsi que les demandes d'asile aient les deux baissé de plus de 80%. Et il y a une donnée relative aux expulsions qui est un peu plus souterraine et qu'on peut difficilement quantifier. Je parle des refoulements illégaux vers la zone tampon entre les deux Chypres. Phénomène qui est fréquemment constaté par les observateurs internationaux qui sont sur le terrain. Donc, ce serait au moins quelques centaines qu'il faudrait ajouter au chiffre record de 12 000 expulsions en 2025.
Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette zone-là? Je veux dire, une fois qu'ils sont là, ils...
Bonne question. J'imagine certains essaient de traverser sur la partie turque pour refaire une demande ou reprendre la mer d'un autre point.
Ouais.
Et il y en a qui restent là des années aussi.
Ça dans cette zone tampon qui
fait quelques centaines de mètres de large, mais qui traverse l'île au complet.
Mon Dieu,
un peu comme on a vu comme dans les Balkans, il y a une frontière semblable avec un genre de No Man's Land.
Effectivement.
On monte en Italie. Autre statistique assez parlante, l'ONG ActionAid nous apprenait dans un récent rapport que depuis l'adoption d'un décret en 2023, il y a 823 mineurs non accompagnés qui ont été placés dans des centres de détention pour adultes, mesure que le décret autorisait sur une base exceptionnelle et temporaire, mais qui aujourd'hui est devenue une norme. ActionAid a fait un grand travail d'enquête auprès des préfectures italiennes, qui sont les gestionnaires des centres de détention de migrants pour adultes. Et l'ONG arrive à la conclusion que, de manière générale, les normes en vigueur qui encadrent les notions de temporaire et d'exceptionnel, c'est défini par la durée, la fréquence, et bien c'est pas respecté. Par exemple, la durée maximale temporaire de séjour autorisée pour un mineur dans un centre pour adultes, c'est 3 mois. Et on constate que des placements de mineurs qui atteignent, dans les pires cas, ça peut aller jusqu'à 3 à 4 ans. Il faut aussi préciser que ce n'est normalement qu'en cas de manque de place dans les centres pour mineurs qu'on peut temporairement placer un mineur dans un centre pour adultes. Mm-hmm. Mais ActionAid a aussi constaté qu'au moment du placement, en général, il y a généralement pénurie de place dans les centres pour mineurs, mais souvent, on ne rapatrie pas les mineurs quand une place se libère.
Une fois qu'ils sont... Ouais,
c'est ça. Donc, ils moisissent là. On les laisse dans ces centres qui ne sont pas du tout adaptés à leurs besoins et qui peuvent même les mettre en danger parfois.
Mm-hmm.
L'Italie a d'ailleurs déjà été condamnée pour cette pratique dans le passé. Il semble qu'elle n'ait pas compris, mais il faut dire qu'elle n'a jamais été condamnée sur une base collective, mais seulement sur la base de poursuites individuelles.
OK.
Le gouvernement italien a été poursuivi par les migrants eux-mêmes qui ont personnellement subi ce traitement.
Ah, c'est ça.
Et c'est arrivé 2 ou 3 fois, là. C'est quand même assez exceptionnel. Je termine en mentionnant cette grosse manifestation pan-européenne d'extrême droite à Milan le 26 avril dernier. La thématique, la rémigration, donc ce principe qui vise à expulser massivement des populations parfois déjà naturalisées depuis des générations. Ouais. Le joli petit cruchon Louis XVI, Jordan Bardella, qui n'est pas du tout fasciste, y a pris la parole. Il n'était pas accompagné de sa princesse d'opérette sicilienne qui avait été castée par Paris Match pour une petite opération photo. En réponse, des contre-manifestations antifascistes ont été organisées un peu partout en Europe, dont une assez importante à Barcelone. En Italie, quelques jours après le 25 avril, a été organisée une grande manif antifasciste à Palerme. Pour fêter les 80 ans de la libération de la Sicile, ce sera ma recommandation de lecture pour aujourd'hui. C'est dans Pivot.Québec, avec le titre suivant « À Palerme, la mémoire vivante de l'antifascisme italien célébrée ». Et si je me fais aux photos des différents articles, la moyenne d'âge était beaucoup plus basse à Palerme qu'à Milan, donc faut pas perdre espoir. C'était mon message.
Vive la jeunesse antifasciste!
Oui, vive la Sicile libre!
Merci Simon pour ce tour très complet. Au moins, on finit sur une note un peu plus...
L'as dit en intro, faut aussi célébrer, parce que si c'était juste des mauvaises nouvelles, ce serait pas écoutable comme émission.
Exactement. Donc, on va aller en musique avec un groupe ontarien qui se nomme Status Non-Status et la pièce Big Changes.
Big changes.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. On vient d'entendre le groupe Status Non-Status qui sont de London en Ontario. La pièce Big Changes est tirée de leur album du même nom, sorti en mars. Vous allez voir, toutes les pièces que j'ai choisies, c'est un hasard, mais toutes les pièces que j'ai choisies pour l'émission sont tirées d'albums sortis en mars.
OK. C'est
l'anecdote du jour.
Le dieu de la guerre, hein? Oui, c'est ça, oui.
Bref, donc, sorti en mars, puis occupe la 37e position du palmarès international de choc. Il n'y a pas de concert à venir à Montréal, puisqu'ils sont venus en mars, justement, pour dans le cadre de Pop Montréal. Alors, donc, avant de rejoindre Mathieu, qu'on entend déjà, on reste en Europe, plus précisément en Espagne, pays beaucoup plus accueillant pour les personnes migrantes que l'Italie. C'est pas dur à battre, vous me direz. Toujours est-il que depuis 16 avril, les guichets sont ouverts en Espagne pour les personnes migrantes qui souhaitent déposer une demande de régularisation. Cette régularisation-là, qui avait été annoncée en janvier, vient reconnaître la réalité de près de 1,5 million de personnes qui sont déjà sur le territoire espagnol. Il s'agit de l'une des plus importantes régularisations récentes. Pour être éligibles, les personnes doivent prouver qu'elles vivent en Espagne depuis au moins cinq mois, sans interruption, avant le 1er janvier 2026. Ne pas avoir de casier judiciaire et être capable d'attester d'une intégration dans le pays. Bon, par exemple, avec une attache professionnelle, familiale ou sociale. Dès le dépôt de leur dossier, ces personnes-là vont pouvoir aussi bénéficier de la sécurité sociale et d'un permis de séjour d'un an renouvelable. Les associations et les ONG accréditées par le ministère de la Migration sont en première ligne pour accompagner les demandeurs dans leur démarche. Comme les personnes migrantes ont jusqu'au 30 juin pour déposer une demande, c'est une véritable course contre la montre pour rassembler tous les documents nécessaires. Et donc, sur le terrain, les structures sont déjà saturées pour les aider. Ce décret-là poursuit plusieurs objectifs, on s'en doute. D'abord, évidemment, mettre fin à l'économie souterraine pour, entre autres, garantir des conditions de travail légales et plus décentes, mais aussi pour répondre aux besoins économiques du pays. Parce que, bon, pour contrer le vieillissement de la population et répondre aux besoins de main-d'œuvre dans plusieurs domaines clés comme la restauration, l'agriculture et l'hôtellerie, un peu comme ici, dans le fond, hein, c'est pas mal les mêmes enjeux.
Le tourisme, entre autres.
Exact. Ben oui. Évidemment, le plan de régularisation, c'est attirer les foudres de la droite molle et extrême, locale, mais aussi européenne. Mm-hmm. Le chef du Partido Popular espagnol, Alberto Núñez Feijóo, a accusé le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez de trahir les piliers de l'européisme. Rien de moins.
Du franquisme dans son cas.
Ouais, ouais, c'est ça. À droite de la droite, le chef de Vox, Santiago Abascal, a lancé cette élucubration sur X à propos de Pedro Sanchez. Il déteste son propre peuple et part à la recherche d'un nouveau peuple pour pouvoir rester au pouvoir.
Oh, OK, le nouveau peuple de votants futurs.
C'est
ouais,
ça.
OK.
À l'échelle européenne, il y a Éric Ciotti, ex-président des Républicains français, a affirmé que le plan de régularisation est une trahison européenne. Donc, il est un peu dans la même ligne que Alberto Núñez. L'eurodéputé français François-Xavier Bellamy du Parti populaire européen, lui a qualifié de danger pour toute l'Europe. Je termine en précisant que pour faciliter la mise en œuvre de son plan de régularisation, le gouvernement espagnol a eu recours à un décret royal, une réglementation prévue dans la Constitution qui permet d'éviter de devoir passer par un vote au Parlement où, évidemment, l'exécutif, comme on le sait, n'est pas majoritaire.
Donc, les gens vont avoir la résidence permanente, mais doivent renouveler aux années le permis de travail. J'imagine que ça va avoir une fin, ça, éventuellement.
J'imagine.
Oui, c'est peut-être pour la première année. OK, à préciser.
Alors, voilà, Mathieu, je te cède le crachoir.
Parfait. Ben, on va dans les enjeux internationaux. Ben, on reste dans les enjeux internationaux, mais multilatéraux. Alors que la Journée mondiale de la liberté de presse était le 3 mai dernier, Reporters sans frontières a dévoilé son classement annuel. Le constat, le quatrième pouvoir se porte bien mal à l'échelle mondiale. Le score moyen des 180 pays à l'étude est le moins élevé depuis l'inauguration du classement il y a 25 ans. Pour la première fois, plus de la moitié des pays se retrouvent dans une situation jugée grave ou très difficile. Seul 1% de la population mondiale jouirait d'une situation où la liberté de presse est considérée comme bonne, alors que ce chiffre s'élevait à 20% en 2002. Donc, il y a 25 ans
qu'il
y a eu le
palmarès. C'est un creux vertigineux, là, quand
oui,
même.
Oui, oui, tout à fait, c'est quelque chose. Les pays qui musellent depuis longtemps les journalistes à l'aide de lois, comme par exemple la Russie, le Burundi, la Chine, etc., l'Iran, ont continué de le faire. En Turquie, l'insulte envers le président ou le dénigrement des institutions d'État peut maintenant valoir aux journalistes un séjour en prison, gratis. Ce phénomène est toutefois plus réservé aux régimes dictatoriaux. La liberté de presse s'effrite également dans les pays démocratiques. Bon, ça fait quelques années quand même, on le savait. 25 ans après les attentats du 11 septembre, l'extension du domaine du secret défense et de la sécurité nationale est devenue un moyen pour interdire la couverture de sujets d'intérêt général dans de nombreux pays. RSF note ainsi que l'usage abusif de lois contre les journalistes au nom de la lutte contre le terrorisme s'est répandu. Ça aussi, on s'en doutait. Trump a fait de l'attaque régulière contre la presse et les journalistes une pratique systémique, reléguant le pays à la 64e place. Il se classait 50e en 2022, il y a 4 ans.
Légère dégringolade.
De 14 places, oui. Les journalistes continuent également d'être la cible du crime organisé. Ce phénomène est particulièrement répandu en Amérique latine.
Ça n'a pas changé.
Ouais. Ça n'a pas changé, mais il y a des nouveaux pays. Le Pérou, 144e rang, et l'Équateur, 125e, ont été le théâtre de l'assassinat de nombreux journalistes en 2025. Le durcissement politique de certains régimes, tels que celui en place au Salvador ou en Géorgie, par exemple, explique également en partie pourquoi la liberté de presse est en chute libre. À l'inverse, la fin du régime de Bachar el-Assad apporte une rare bonne nouvelle. La Syrie réalise la plus forte progression avec un gain de 36 places.
Hey boy.
Israël, qui se classe maintenant 116e, a chuté de 4 places et est mentionné à plusieurs reprises dans le rapport. Plusieurs grands médias internationaux ont d'ailleurs également saisi l'occasion de la Journée mondiale de la presse, de la liberté de presse, pour interpeller Israël et réclamer l'accès à Gaza dans une lettre commune. Des dirigeants de Radio-Canada, de CBC, sont signataires avec la BBC, le New York Times, Le Monde, l'Agence France-Presse, Reuters et El País. Mais il n'y a pas de réponse pour l'instant.
Non,
les gens
hein?
étrangers peuvent pas rentrer à Gaza depuis cette semaine.
Ça sonne le raccroché.
Oui, c'est ça. C'est engagé. Sinon, le rapport annuel d'Amnesty International, qui s'appelle Le Monde menace de basculer, qui ressemble beaucoup à celui du de Human Rights Watch, duquel j'ai parlé il y a quelques semaines. Donc, je vous lis quelques extraits. En 2025, nos équipes ont enquêté sur le terrain et recoupé des témoignages et informations dans 144 pays. Notre état des lieux doit nous alerter collectivement. La loi du plus fort pourrait prendre le pas sur l'état de droit. Face à la montée des pratiques autoritaires dans le monde, aucun pays n'est à l'abri de basculer. Mais la résistance se lève, elle doit nous porter. Bon, ça, c'est leur intro.
Ouais.
Ils ont donc réuni 3 articles pour donner donc différents points de vue, là, je dirais, sur différents enjeux. Le premier, c'est 2025, des prédateurs viennent imposer une nouvelle loi. L'année 2025 restera celle des prédateurs. Trump, Poutine, Netanyahu, des dirigeants qui proposent un ordre mondial raciste, patriarcal, inégalitaire, et qui sont prêts à écraser toute dissidence. Je cite le rapport. Il y a un article sur la France. La France n'est pas à l'abri des pratiques autoritaires. Face à la montée des pratiques, les discours contre les droits humains se banalisent en France et ils ouvrent la voie à des politiques qui s'en inspirent ouvertement.
Mm-hmm.
Parmi ces signes, banalisation des discours racistes, banalisation des attaques contre l'état de droit, répression de la société civile. On l'a vu dans le cadre du mouvement pro-palestinien, entre autres.
Ouais.
Et dernier article, les raisons d'espérer, la Gen Z en résistance. En 2025, la jeunesse a été le porte-drapeau de cette lutte pour nos droits en organisant des manifestations de résistance et de solidarité.
Ben, ça fait lien avec ce que Simon disait aussi.
Exactement. Tantôt. Tout à fait. Fait que le rapport d'amitié. Je termine avec un troisième et dernier sujet, Marie.
Bien sûr.
Un article de Pivot du 28 avril dernier. Aide internationale, le financement canadien en chute libre. Bon, on va apprendre beaucoup de choses là-dedans. Le financement canadien de l'aide publique au développement international devrait diminuer de 38% d'ici la fin de la décennie, passant de 10 milliards en 2024-2025 à 6 milliards en 2028-2029. Selon une analyse récemment publiée par le Centre canadien de politique alternative, combinée à la croissance prévue de l'économie, cette baisse de la contribution canadienne devrait faire passer son ratio de 0,17% du PIB canadien, ce qui est très loin du petit 0,7% demandé par l'ONU à l'ensemble des pays riches. Et ça serait le plus bas niveau relatif de contribution canadienne depuis 1964. Il y en a eu des gouvernements conservateurs depuis ce temps-là.
Oui, mais non, on préfère les ratios de l'OTAN, je pense.
Ben voilà, c'est ça. Une grande partie des coupes prévues à l'aide internationale s'inscrit dans l'effort de réduction de 15% de leurs dépenses exigées par le gouvernement Carney à la plupart des ministères dans son dernier budget pour lui permettre de financer l'augmentation des dépenses militaires.
Mais voilà.
Du côté d'Affaires mondiales Canada, le principal ministère qui contribue à l'aide, ce sont 862 millions de financements par année qui seront ainsi coupés. Les programmes d'aide à la santé, aux droits sexuels et reproductifs, secteur pour lequel le Canada joue un rôle prédominant depuis longtemps à l'international, pourraient être particulièrement affectés. Affaires mondiales Canada a confirmé vouloir recentrer ses efforts sur les intérêts économiques et la sécurité du pays à la demande du gouvernement, tout en restant engagé envers la lutte à la pauvreté et à l'égalité des genres. Il dit vouloir concentrer ses efforts dans des pays pouvant fournir des partenariats mutuellement bénéfiques pour renforcer les relations économiques et soutenir les priorités nationales. Ça, ils ont répondu ça à Pivot par courriel quand même.
Mais non, mais on dirait le discours des États-Unis.
Ben oui, celui d'Harper à l'époque aussi. Là.
Aussi, oui, ouais. C'est vrai.
Le gouvernement met fin aussi au programme de financement international de la lutte contre les changements climatiques qui soutenait les organismes travaillant avec des pays en voie de développement pour les aider dans leur évolution. Et dernière chose qui est dernier élément là, des coupes, l'autre grand facteur de la baisse à l'aide au développement est la diminution de moitié de la contribution d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, une contribution annuelle qui devrait diminuer de plus de 1 milliard d'ici 2029 par rapport à son sommet de 2024-2025. On rappelle que le traitement des demandes d'asile au pays est considéré comme de l'aide au développement et que cette aide est donc majoritairement dépensée au pays, notamment dans les programmes d'aide au logement et d'accompagnement à l'intégration demandeurs d'asile.
C'est géré au niveau international, par
le ministère. Donc, au niveau des organismes concernés, cette grande diminution de leur financement sera un coup dur pour les organismes de solidarité internationale au pays et pour les communautés avec lesquelles ils travaillent depuis des années. Fait une note de Denis Côté, analyste des politiques à l'Association canadienne des organismes de coopération internationale. Je le cite, il y a eu USAID, coupure de 80, qui fournissait près de 40% de l'aide internationale dans le monde et qui a coupé son financement de 80%. Mm-hmm. Et comme on le craignait, ça a légitimé plusieurs pays de faire la même chose, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et maintenant le Canada. En plus, plusieurs organismes québécois d'aide internationale s'étaient fait couper leur financement qu'ils recevaient du gouvernement du Québec à travers leur programme Québec sans frontières, un peu avant les fêtes, donc fin 2025. Donc, la conclusion de Denis Côté de l'AQ aussi, je le cite, c'est vraiment un choix politique. Il va nous revenir, que ce soit sous la forme de conflits ou d'immigration. Le Canada n'est pas isolé du reste du monde. On va tous être affectés en bout de ligne, conclut-il. Bon. Donc, ça va très bien. Hein?
Ben oui, super.
Hein, je te le dis.
Là-dessus, on va aller vomir pendant ces notes musicales. Toujours avec les apatrides anonymes sur choc.ca. On reste à l'international. On se déplace vers le Maroc, qui est traditionnellement un pays de transit pour les personnes migrantes qui espèrent rejoindre l'Europe. Sauf que là, selon un article d'Info Migrants, il semblerait que de plus en plus d'entre ces personnes-là choisissent d'y rester, en fait. Quand même, par exemple, tu sais, j'ai pas vraiment de chiffres parce que c'est difficile de quantifier là, précisément l'ampleur de cette tendance-là, parce qu'environ les trois quarts des personnes migrantes qui restent au Maroc occupent un travail illégal, puis aussi le fait que les autorités marocaines sont pas vraiment chaudes à l'idée de régulariser leur situation. Il y a, faut aussi dire que les statistiques officielles reflètent pas l'ampleur là, de la migration irrégulière. Mais on peut donner l'exemple de la ville d'Ait Amir, à environ 50 km au sud d'Agadir, où la population locale a quadruplé pour atteindre 113 000 habitants depuis la fin des années 90, précisément en raison de l'augmentation de la main-d'œuvre migrante. Il y a deux facteurs qui expliquent ce changement-là. Le plus évident, c'est le renforcement des contrôles aux frontières maritimes par les autorités marocaines qui a rendu plus difficile les traversées en mer vers l'Europe. Donc, beaucoup de migrants se retrouvent bloqués à long terme au Maroc et se mettent à y chercher du travail. L'autre facteur, c'est l'urbanisation du Maroc qui a entraîné un exode massif vers les villes au détriment, évidemment, des zones rurales où sont concentrés les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Beaucoup de Marocains sont allés chercher du travail dans des grands centres urbains depuis le début des années 2000. Selon Rachid Ben Ali, président de la Confédération nationale des producteurs agricoles, cette tendance-là ne va pas s'inverser parce que une fois que les gens sont habitués à la vie urbaine, ben c'est difficile de les faire revenir travailler dans des exploitations agricoles en zone rurale. S'ajoute à ça le taux de natalité chez les Marocains qui est en forte baisse, donc déclin démographique, et le fait que le gouvernement marocain investit massivement dans le renforcement des infrastructures des villes en construisant des nouvelles voies ferrées, des routes, des aéroports, par exemple. C'est donc devenu difficile de trouver de la main-d'œuvre, puis cette pénurie-là a poussé les travailleurs agricoles marocains à exiger des salaires plus élevés aussi. Bon, ça donne quand même, le rapport de force a un peu changé, alors que les travailleurs migrants, eux, ben, travaillent pour des bas salaires. Selon Reuters, ils gagnent moins de 1/5 du salaire des Marocains.
Des Marocains moyens?
Ouais. Ouais. Selon Abdelaziz El Manaoui, président d'une association de producteurs, le secteur est devenu dépendant de la main-d'œuvre immigrante au point où il affirme que sans elle, plusieurs exploitations auraient dû fermer ou réduire leur production. Tout ça fait que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la régularisation d'environ 150 000 personnes au Maroc.
Est-ce qu'on sait de quel pays ils viennent surtout?
Non.
Non, OK.
Subsaharien beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Parfait. Tu me passes la parole, Marie-Ève?
Yes.
Ben, je vais aller aux États-Unis. Je vais faire un lien avec ce que tu viens de parler tantôt là, à la fin de mon bloc.
Tout est dans tout.
Oui, sur l'agriculture. Mais on va parler d'immigration et de game politique aux États-Unis. Donc, dans un rare élan de consensus bipartite, la Chambre des représentants a accepté d'examiner un projet de loi visant à prolonger les protections temporaires accordées aux immigrants haïtiens, entre autres. Ça, ça date du 16 avril à peu près. Je vais vous faire la chronologie. Le projet de loi obligerait l'administration Trump à prolonger de 3 ans le statut de protection temporaire accordé à Haïti, ce qui permettrait à des centaines de milliers d'immigrants admissibles de rester aux États-Unis sans crainte d'être expulsés. La tentative du président de mettre fin au statut accordé à Haïti, au Venezuela, à la Syrie et à d'autres pays en crise est cruelle, illégale et met des vies en danger, a lancé la représentante démocrate du Massachusetts, Ayanna Pressley. La Cour suprême s'apprête à examiner une affaire en procédure d'urgence qui mettrait fin au statut de protection des immigrants haïtiens et syriens précisément, dans le cadre d'un recours largement considéré comme menaçant l'ensemble du programme de protection. L'administration Trump a déposé des recours d'urgence après que des tribunaux inférieurs eurent suspendu la fin immédiate du programme pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. La Cour suprême s'est déjà rangée du côté d'administration sur cette question et a autorisé la fin du statut juridique temporaire pour un total de 600 000 personnes originaires du Venezuela seulement, pendant que les procédures judiciaires suivent leur cours. Donc, ils sont toujours pas expulsés parce qu'il y a d'autres recours actuellement. Peu après son arrivée en poste, l'administration de Donald Trump a tenté de retirer une dizaine des 17 pays de la liste du TPS, le Temporary Protection Statute, dont les 3 pays dont je viens de vous parler, mais il y a 18 pays quand même, des pays dont j'étais pas au courant, comme le Cameroun, le Liban, il y a la Somalie, il y a l'Ukraine, il y a le Yémen, en tout cas, il y a vraiment, okay. Puis là, c'est pas des centaines de milliers de personnes par pays, mais il y a quand même plusieurs pays qui sont 18 pays qui sont toujours sur la liste que lui, il essaie d'enlever le plus possible, mais il réussit pas. Bon, finalement, les élus du Congrès ont voté pour prolonger de 3 ans le statut des Haïtiens et des Syriens. 10 républicains de la Chambre se sont alliés aux démocrates, permettant à la proposition d'être adoptée à 224 contre 204. C'est tout de même un pas important qui a pris la Chambre pour communiquer de l'information à la branche juridique, c'est-à-dire la Cour suprême, sa position, a estimé un politologue américain.
Ouais.
Les juges de la Cour suprême ont finalement entendu le 29 avril les arguments des deux parties. On rappelle que l'administration cherche à révoquer le TPS de, surtout dans ce cas-ci, les Haïtiens et les Syriens. Au total, c'est plus de 1,3 million de personnes qui bénéficient d'un statut de protection qui leur permet de vivre et de travailler aux États-Unis sans craindre l'expulsion. La décision de la Cour suprême est attendue d'ici la fin juin ou le début du mois de juillet sur les Haïtiens et les Syriens.
Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Ça peut permettre d'empêcher peut-être des expulsions, mais pas nécessairement les raids de l'ICE ou les détentions non plus qui, à ce jour, je crois, continuent aussi.
Oui, t'as raison. Mais c'est sûr que le statut de protection, ça peut aider en bout de ligne à ne pas être expulsé arrêté par la police d'immigration, par exemple.
Effectivement.
Ouais. Dans le même ordre d'idée, le président américain a appelé en fin de semaine les juges de la Cour suprême à être loyaux au sujet de son décret revisant le droit du sol. Au premier jour de son second mandat, Trump a signé un décret stipulant que les enfants nés aux États-Unis de parents s'y trouvant illégalement, entre guillemets, ne deviendraient plus automatiquement citoyens américains, revenant ainsi sur le principe du droit consacré par le 14e amendement. Toutes les juridictions inférieures saisies ont jusqu'ici déclaré illégal ce décret. Début avril, Trump avait assisté en personne au débat sur le sujet à la Cour suprême.
Je pense que c'est une première.
Un président en exercice. Visiblement, peu influencé, les juges se sont montrés sceptiques sur la mesure. La décision de la Cour est attendue d'ici le terme de sa session qui s'achève fin juin, donc à peu près en même temps que l'autre décision sur le statut de protection. Sinon, Simon en parlait, la gouverneure démocrate de l'État de New York, Kathy Hochul, a annoncé plusieurs mesures destinées à restreindre les activités de l'ICE sur le territoire de l'État, obligeant notamment ses agents à travailler sans masque. Parmi les autres mesures prises pour protéger les New-Yorkais contre les opérations agressives et souvent cruelles menées par l'ICE, je la cite, Mme Hochul a annoncé que celle-ci ne serait pas autorisée à entrer dans les écoles, les bibliothèques, les centres communautaires, les bureaux de vote et d'autres lieux sensibles sans mandat judiciaire. Elle interdit en outre aux autorités policières locales de coopérer avec l'agence pour toute forme d'opération relevant seulement des lois de l'immigration. Interrogé récemment sur les projets de Mme Hochul, le conseiller de Trump sur l'immigration, Tom Homan, a menacé de déployer encore plus d'agents dans l'État. Hein, c'est une super réponse.
Ah, bizarre.
Et je termine avec un lien avec ce que je te disais, ce que tu parlais, Marielle.
En agriculture,
ouais. Oui, l'article de Radio-Canada a inspiré de l'émission, le reportage qu'il y a eu à la Semaine verte. Main-d'œuvre agricole en Californie, un secteur bouleversé par les politiques de Trump. Je vais lire juste quelques extraits rapidement. Le sort des travailleurs sans papier, un pilier du secteur agricole californien et des plus incertains. Un exemple, en juillet, plus de 300 travailleurs sans statut légal sont arrêtés dans un complexe céréalier de Ventura. Un homme tombe d'un toit et meurt en tentant de prendre la fuite. Ça, c'est arrivé en juillet dernier. Pendant des mois, les descentes de la police d'immigration se multiplient dans les fermes et les communautés agricoles de la Californie. Ça met à la page chez les travailleurs sans statut légal. Le département de l'agriculture des États-Unis estime que 40% de la main-d'œuvre agricole est en situation irrégulière et c'est 60% en Californie qui est le principal état agricole du pays. Un chiffre que j'avais pas vu à date, Marie-Ève, depuis 2025, quelques 500 000 des 11 millions d'immigrants sans papier ont été expulsés du pays. Donc, en un an et quelques, là, par la politique de Trump. Et la majorité d'entre eux n'avaient pas de casier judiciaire. La secrétaire à l'agriculture, Brooke Rowland, a proposé deux solutions pour contrer la pénurie de travailleurs causée par les expulsions de masse. La première, misée sur la main-d'œuvre américaine. Elle a déclaré qu'il y a 34 millions d'adultes sur l'aide sociale aux États-Unis qui peuvent travailler.
Ouais.
Et l'autre solution, c'est l'automatisation de l'agriculture.
Ah oui, bravo.
Mais dans le secteur maraîcher, les humains vont plus vite que les machines quand celles-ci existent. Et je voulais finir avec une information.
Ils n'ont pas parlé de tant qu'à faire.
Des robots?
Ouais, l'intelligence artificielle.
Ouais, c'est ça. La dernière fois qu'une amnistie a été offerte aux immigrants en situation régulière aux États-Unis, c'était il y a 40 ans, en 1986. Et qui était président?
Reagan?
Ronald Reagan. Oh, là, quand même, hein. Donc, voilà pour les États-Unis, ce merveilleux pays.
De liberté.
En déclin permanent.
Ouais, non, c'est ça. OK, ben merci Mathieu. On s'en va en musique avec Tania Tagak et la pièce Fuck War. On vient d'entendre la pièce « Fuck War » de la chanteuse de gorge Tania Tagak, qui est originaire du Nunavut. Le morceau figure sur son plus récent album intitulé « Sapuchiji », je suis vraiment pas sûre de ma prononciation, qui est paru en mars et qui occupe la 39e position du palmarès international de choc. Pour nos auditeurs et auditrices de Victoria en Colombie-Britannique, sachez qu'elle participe à un concert bénéfice à Vancouver le 22 mai pour la Fondation David Suzuki et qui va aussi souligner le 90e anniversaire de l'environnementaliste. Et à Montréal, ben, elle va être en concert le 3 juillet au Club Soda dans le cadre du Festival de Jazz. Avant de poursuivre, je vous présente en nom de mes plus plates excuses à Mathieu parce que j'ai coupé le sifflet trop vite.
Merci. Recommence pas par hasard.
Mais
c'est,
je fais un...
c'est de la censure.
C'est ça. Mais je fais un lien quand même. Mathieu parlait là du droit du sol aux États-Unis. Ici, ben comme vous le savez sûrement, il y a le projet de loi C3 modifiant la loi fédérale sur la citoyenneté qui est rentré en vigueur le 15 décembre dernier. Mais il y a une des dispositions qui est un peu passée sous le radar. C'est celle qui concerne l'obtention de la citoyenneté canadienne par filiation. Auparavant, la citoyenneté par filiation pouvait seulement être transmise à une seule génération, d'un parent à un enfant. Mais là, à partir du 15 décembre, dans le fond, toute personne née avant le 15 décembre est capable de prouver qu'elle a un ancêtre canadien direct, c'est-à-dire un grand-parent, arrière-grand-parent ou même un ancêtre plus éloigné, peut obtenir un certificat de citoyenneté. Les personnes nées ou adoptées à l'étranger le 15 décembre ou après et dont le parent canadien est également né ou a été adopté à l'étranger doivent démontrer que le dit parent a résidé au moins 3 ans au Canada ou 1095 jours. Pour celles et ceux qui ont déjà les documents nécessaires en main, les frais de demande de preuve de citoyenneté sont relativement peu coûteux. Ils s'élèvent à 75 $, fait que ça va.
Ça va. Ancestors, ça marche pas.
Ancestry.
Ancestry, pardon, oui, c'est ça.
Mais les coûts peuvent, effectivement, Simon, parce que les coûts peuvent monter à plusieurs milliers de dollars pour les personnes qui doivent soit faire appel à un avocat ou un généalogiste.
Ah, ben oui, OK.
Selon le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le délai de traitement d'un certificat actuellement est d'environ 10 mois et il y aurait plus de 56 000 personnes en attente d'une décision. Entre le 15 décembre et le 31 janvier, le ministère indique avoir confirmé la citoyenneté par filiation pour 1480 personnes. Et depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 15 décembre, les avocats spécialisés en droit de l'immigration aux États-Unis et au Canada affirment être dépassés par les requêtes de clients qui sollicitent leur aide pour déposer des demandes de preuve de citoyenneté. Parce que, bon, étant donné la situation au sud de la frontière, hein, on l'a vu avec Mathieu il y a quelques minutes, ben il y a de plus en plus d'Américains qui tentent de retracer leurs origines et de déposer une demande de double nationalité. Ce sont potentiellement des millions d'Américains qui pourraient satisfaire aux nouveaux critères. Et l'année dernière, c'était 24 500 personnes qui ont obtenu la double nationalité américano-canadienne. Mathieu, tu voulais dire quelque chose?
Oui, c'est seulement pour les Américains, hein? C'est bien ça. Hein?
Non, non.
Ah non, hein?
Non, non.
Ça peut être pour n'importe qui dans le monde.
Oui,
OK,
oui.
OK, je pensais.
Oui,
okay,
oui.
Okay.
Mais je pense qu'on en parle parce qu'il y a actuellement beaucoup d'Américains qui font les démarches.
Comme par hasard, oui, c'est ça, oui.
Donc,
c'est
voilà.
Exactement ça, Simon. Mm. Dans un article du Devoir, le cabinet de Nicholas Burning, un avocat spécialisé en droit de l'immigration dans l'État de Washington, lui, il dit qu'il est pratiquement submergé par ce type de demande-là. De son côté, il y a l'avocat spécialisé Amandeep Hayer qui raconte que son cabinet dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, est passé d'environ 200 dossiers de citoyenneté par an à plus de 20 consultations par jour. Donc, c'est vraiment un gros bond. Il me reste-tu du temps, Mathieu?
dis non.
Comme je le disais...
Vive la liberté de presse!
Comme je le disais, les demandeurs américains ont des motivations diverses, là, mais beaucoup affirment que les mesures prises par Trump en matière d'immigration, spécifiquement, justement, sont pour beaucoup. L'article du Devoir donne l'exemple de Maureen Sullivan de Naples, en Floride, qui a reconnu avoir été motivé par la répression de l'immigration menée par l'ICE au Minnesota, qui l'a, elle, particulièrement touchée lorsque son neveu adolescent a croisé des agents de la police fédérale près de son école secondaire. Madame Sullivan, dont la grand-mère était canadienne, a affirmé qu'elle considérait la citoyenneté canadienne comme une option au cas où, je la cite, « la situation dégénérerait vraiment aux États-Unis ».
Ouais, comme si c'était pas assez actuellement, mais ça pourrait être pire encore.
Oui, oui, non, c'est ça. Alors, voilà, Simon, c'était pour faire un pont avec le fait qu'on revient en terre canadienne.
Bien, je commence avec une triste nouvelle qui se passe justement à la frontière canado-américaine. Donc, une femme brésilienne de 36 ans retrouvée morte il y a quelques semaines dans la région de Coaticook. Elle serait décédée mi-janvier après que 3 postes frontaliers canadiens lui aient refusé l'entrée. Elle serait finalement passée clandestinement par des secteurs boisés où elle serait assez rapidement morte d'hypothermie avec des températures qui tournaient autour des moins 10 degrés. C'est pas la première fois qu'un tel décès survient en hiver dans la région suite à des traversées de la frontière entre les points d'entrée officiels. À chaque fois, les enquêtes du coroner mentionnent l'aspect évitable de tels décès, sans toutefois pointer directement du doigt l'entente sur les tiers pays sûrs, mais c'est forcément l'éléphant dans la pièce que j'aimerais bien voir les enquêtes nommées de manière plus explicite dans leurs conclusions, donc je sais pas combien de décès ça va prendre. Je poursuis avec notre nouveau ministre québécois de l'immigration, donc dehors Jean-François Roberge, maintenant c'est François Bonnardel, donc 4,30 sous pour
une
un
nette amélioration.
Donc sa mission principale sera d'adopter, générale sera d'adopter une approche dite plus humaine de l'immigration, là, selon les dires de la nouvelle première ministre, et plus spécifiquement de ressusciter le fameux PEC pour une période de 2 ans, ce qui permettra peut-être de réparer une petite partie des pots cassés.
Mathieu, tu voulais-tu...
Non, je voulais juste dire que tu, Frank, il n'y a pas beaucoup de lousse et de temps, là.
Non,
disons que le calendrier n'est pas évident. Là, on a quoi, je pense, 2 semaines de travaux parlementaires.
Il reste 2 semaines,
qui commencent. Ensuite, c'est les vacances. Et au retour à l'automne, on va être à la veille des élections
générales.
C'est
la campagne électorale. C'est ça. Direct.
Et entre-temps, c'est toujours le PSTQ qui est en vigueur et qui continue d'exclure beaucoup d'anciens candidats du PEC, soit en n'envoyant pas les invitations essentielles pour adhérer au programme, adhésion au programme qui ne garantit pas son acceptation, tout ça alors que beaucoup de permis de travail et de permis d'études arrivent à échéance, ce qui force beaucoup d'adhérents à l'ancien programme à quitter le Canada, et ce ne sera pas réglé si rapidement puisque cette question des permis de travail demande aussi un effort d'arrimage entre le provincial et le fédéral, ce qui peut prendre quand même du temps. Je disais que l'invitation à adhérer au PSTQ ne signifiait pas nécessairement l'adhésion automatique au programme. Jusqu'à maintenant, sur 10 000 invitations envoyées, il y a eu combien de certificats de sélection qui ont été octroyés?
500?
110.
Hey boy.
Soit un beau taux de 1% de taux d'acceptation pour les heureux invités qu'on décrit comme des chanceux dans les médias. Donc, c'est un mélange de refus et de dossiers toujours non traités, puisque même parmi la première cohorte d'invités qui ont appliqué au PSTQ il y a maintenant 8 mois, certains n'ont toujours pas reçu de réponse. Donc, si le permis de travail expire, ce qui est le cas de plusieurs, ils ont alors 90 jours pour quitter le territoire s'ils n'ont pas reçu de réponse à leur demande d'adhésion au PSTQ.
Ça ira au retour des vacances, coudonc.
Ben, les gens peuvent pas penser dans ces termes-là quand les permis de travail arrivent à échéance. Malheureusement.
C'était une blague.
tu parles comme un ministre de la CAQ,
ben, Marie. je personnifiais Bonnardel. Là.
Ben oui, hein, le Frank, comme disait Mathieu. Donc, comme c'est un programme d'immigration économique, il n'y a pas le recours possible non plus à l'évaluation des risques avant renvoi. En fait, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de quitter le territoire. Et si les gens ne détestent toujours pas le Québec après avoir été traités de cette façon, ils peuvent toujours recommencer leur démarche à partir de l'été. Étrangers, mais je doute qu'ils le fassent.
Ouais.
Je rappelle que le PEC, ce sont très souvent des formations et des diplômes obtenus au Québec, alors on échappe combien de centaines de professionnels francophones dans des métiers souvent en pénurie de personnel. Et on apprenait hier, je crois que le PQ avait fait obstruction à la demande de motion d'unanimité à la réouverture du PEC. Donc,
ouais,
on va être.
Motion de Québec solidaire.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'essayais de vérifier aujourd'hui qu'est-ce que ça impliquait. Ça veut dire qu'on est obligé de repasser par tout un processus législatif, je crois, pour réouvrir le PEC, alors que ça aurait pu être fait si l'Assemblée nationale était unanime, ça aurait pu être réouvert automatiquement.
Mais la motion disait de le réouvrir avant la fin des travaux pour
c'est
qu'il y ait
ça.
Un décret.
OK.
Fait que la CAQ a voté avec, mais le PQ a voté contre. Mais la CAQ a dit après, ça se peut que ça aille juste plus tard. tard dans l'été, finalement. Fait que,
bon, c'est finalement, il n'y a pas tant de volonté.
C'était plutôt symbolique, mais le PQ a vraiment voté contre la réouverture du PEC, là, c'est clair.
Bon, ouais. Ben écoute, c'est ça promet. C'est dans l'ordre des choses. Hein. Donc, je parlais d'approche plus humaine en immigration à Québec. Je me tourne maintenant vers Ottawa, où des compressions au programme de soins de santé temporaire pour les demandeurs d'asile ont réduit considérablement l'accès aux médicaments, aux soins de réadaptation et aux soins psychologiques depuis le 1er mai. Par exemple, en plus de demander aux patients de défrayer 30 % du coût des soins de santé dits complémentaires, ce qui constitue une nouvelle hiérarchie de soins entre ce qui serait essentiel et ce qui ne le serait pas, ouais. Parce qu'il n'y avait pas cette distinction-là avant.
Okay.
Donc, on plafonne maintenant à 10 par année le nombre de séances en psychothérapie, même si un médecin en prescrit davantage. Je rappelle que les demandeurs d'asile et les réfugiés ont souvent vécu des violences que personne ici en studio, on ne vivra jamais de toute notre vie. Les suivis psychologiques sont donc essentiels à leur santé mentale et parfois seulement arriver à créer un lien de confiance entre le professionnel et son patient, ça peut prendre plus que 10 séances. Mmh. Et le travail thérapeutique en tant que tel, il n'est même pas encore commencé. Je parle aussi d'accès aux médicaments. On va maintenant demander un prix plancher. Pour chaque médicament, antibiotique, etc., j'ai lu 4 $. Je ne sais pas si ça s'applique au cachet exactement, donc ce sera à vérifier. 4 $, ça peut ne pas nous sembler énorme, mais la situation financière des réfugiés, des demandeurs d'asile, elle est généralement très précaire, alors ça peut forcer de devoir choisir entre la nourriture et le médicament. C'est le genre de mesure d'économie de bout de chandelle qui a déjà été expérimentée dans d'autres pays, et ce qu'on constatait, c'est que plusieurs personnes se privaient de soins. Donc, non seulement leur santé physiologique et psychologique se dégradait, mais au final, ça coûtait plus cher au gouvernement de devoir ensuite soigner des gens encore plus mal en point.
Évidemment, oui.
Je reviens brièvement à Québec. Je termine avec une nouvelle digne de la Maison des fous des 12 travaux d'Astérix, le programme des immigrants investisseurs. On en parle peu parce que généralement, il n'y a pas vraiment de grands enjeux humanitaires avec ce programme-là.
On ne braillera pas pour eux autres trop.
Hein. On ne braillera pas, on ne rira pas non plus. Je veux juste vous
raconter. Ouais, non, c'est juste un fait.
En tout cas, pour adhérer à ce programme, il faut faire un prêt au gouvernement du Québec d'$1 million qui doit être remboursé au prêteur sans intérêt après 5 ans. Et ce remboursement est assorti d'un certificat de cession du Québec et au $1 million fait ajouter un montant de $200 000 qui, lui, ne sera pas remboursé. Donc, c'est ce qui est prévu.
OK.
Là, c'est en tout 5,7 milliards de dollars qui ont été prêtés au gouvernement québécois via ce programme. On apprenait récemment qu'ils sont 960 immigrants investisseurs ou 3400 personnes, si on inclut leurs familles, qui ont dépassé cette durée de 5 ans sans pour autant avoir obtenu ni leur remboursement ni le certificat de sélection. Il serait une vingtaine dont le prêt date de plus de 10 ans sans avoir reçu de nouvelles. Donc, comme tu disais, on pleurera pas nécessairement sur la catégorie d'immigrants la mieux nantie, mais...
J'irais cogner à la porte d'investissement à Québec, genre.
Ah, ça peut être ça, ou aller chercher une hypothèque pour... En tout cas,
c'est
bref,
n'importe quoi.
On fait dur. Voilà, c'est ça ma conclusion.
Mathieu?
Oui, il y a des voleurs un peu partout.
Ouais, hein. Non, c'est ça. Alors, sur ce, quelques coups de casserole. Alors, on commence avec le traditionnel rendez-vous annuel anarchiste, le Festival Constellation. Plusieurs événements sont organisés à différents endroits à Montréal à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 mai. Ça va de soirée de cinéma à des cours d'arts martiaux en passant par une soirée quiz, des concerts et un rave. Mmh. Toute la programmation est au constellationmtl.net. Mais le principal événement reste le Salon du livre anarchiste ce samedi. Ça se déroule toujours dans la Petite Bourgogne à Montréal, au CEDA et au Centre culturel Georges Vanier, à 2 pas du métro Lionel-Groulx. Il y a aussi des ateliers proposés toute la journée. Je vous en nomme quelques-uns pour vous donner une idée là, de la diversité des sujets abordés. Antipsychiatrie et soins collectifs. De Minneapolis à Montréal, la lutte pour la justice migrante au cœur de la lutte antifasciste. Vers un monde sans prison, dialogue sur l'abolition et la justice transformatrice. Combattre l'extractivisme, perspective anarchiste sur les luttes contre l'industrie minière et la foresterie sur le Nitaskinan. Décolonialité et résistance queer et anti-autoritarisme en traduction, l'esthétique révolutionnaire dans les pays arabes.
Ah,
donc, allez voir le site constellationmtl.net pour toutes les informations. Pour celles et ceux qui nous écoutent depuis Québec, le collectif pour un Québec sans pauvreté organise 2 jours de mobilisation qui se déclinent en 3 moments. Le 22 mai, à partir de 9h, là, toute la journée, une journée de réflexion collective et de croisement de savoir et de savoir-faire. Ça se poursuit en soirée avec une soirée festive. Et le lendemain, le 23 mai, à 11h30, manifestation nationale pour remettre la lutte contre la pauvreté au premier plan politique. Il s'agit du point culminant de la campagne « Le discours doit changer, parlons de pauvreté ». L'espace de l'Agora va aussi présenter une exposition d'images qui est issue de la tournée là, du collectif à travers le Québec. C'est de là aussi que va partir la manif du 23. Le rendez-vous est au lieu historique national Quartier Brébeuf dans le quartier Limoilou. Pour les détails et la programmation complète, c'est au pauvreté.qc.ca/agora. Et en terminant, on revient à Montréal pour deux jours de mobilisation des savoirs, là aussi, sous le thème « Il n'y a pas de justice climatique sans justice migrante ». Ça, c'est les 28 et 29 mai. C'est organisé par l'Observatoire pour la justice migrante, puis ça commence par un panel sous le thème « Personne n'est illégal sur une planète en feu ». J'adore le titre. Ça commence à 17h à la salle de Sèvres de l'Université Concordia. Les panélistes sont Archa Walia, qui est journaliste, autrice, militante aussi pour la justice sociale, droits des femmes, droits des migrants et autochtones. Mustapha Hennaoui, qu'on connaît, hein, du CTTI, et Garine Papazan Zorabian, qui est directrice scientifique de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeurs d'asile.
Il y avait un panel dans le cadre de Constellation qui avait exactement la même thématique, mais il n'y a pas de lien nécessairement entre les deux.
Non.
Non, OK.
La discussion va être suivie d'un cocktail et d'une séance de dédicace avec Archa Walia et Mustapha Hennaoui, qui ont chacun leur livre à faire signer. La journée du 29, elle, a lieu au QG de l'Observatoire de la justice migrante au 7000 Avenue du Parc, c'est au métro du Parc, de 9h à 17h. Là aussi, il y a trois panels suivis d'une plénière. À 9h, c'est État des lieux d'immigration et des déplacements forcés à l'ère des changements climatiques. À 11h, dynamique Nord-Sud et responsabilité des pays du G7 dans la dégradation des milieux de vie de plusieurs pays du Sud global. Et à 13h30, résistance à la frontiérisation et à la nécropolitique, quelle solution pour notre avenir collectif? Donc, tous les détails sont sur la page FB de l'événement. Vous avez juste à taper « Personne n'est illégal ». Il n'y a pas de justice climatique sans justice migrante. C'est ce qui clôt l'émission d'aujourd'hui. Avant de se laisser en musique, je vous rappelle que nos balados sont aussi disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore sur apatridesanonymes.info. Vous gênez pas pour nous écrire, nous faire part de vos commentaires ou nous suggérer des sujets à apatridesanonymes@commercialresist.ca. On vous invite aussi à visiter notre page FB qu'on alimente avec des événements militants au Québec puis des articles de médias européens. Merci Simon et Mathieu, c'était vraiment le fun de vous retrouver.
Ben oui, on a retrouvé notre dynamique de triangle.
Oui,
de triolet, de trio.
de triplet.
On s'en est permis un peu aussi quand même.
Bon, il faut bien.
Faut bien, on a du temps quand même.
On déborde de partout.
C'est ça. On termine en musique avec le groupe de Rouyn-Noranda, Gontwe.
Qu'on a déjà fait jouer à l'émission.
Oui.
Ouais, sur la fonderie Horn à l'époque, mais là, c'est
exact.
Un autre sujet, je crois.
Oui, ben, c'est justement, là, c'est des vilipendeurs brutalement efficaces de la fonderie Horn, Simon, comme tu le dis. Puis ils en ont beaucoup à dire parce qu'ils sortent à peu près un album par année, là. C'est à peu près ça, le rythme. Leur dernier album, justement, est paru en, devinez quel mois?
Avril.
Mars.
tu l'avais dit, en plus.
S'intitule « Une ville, une mine, un cancer ». C'est toujours très, très clair, leur. Et est en 32e position du palmarès local de Choc. Eux non plus, il n'y a pas de concert à Montréal prévu parce qu'ils sont venus à l'ESCO le 9 avril, mais ils vont être dans des festivals là, cet été, fait que surveillez ça. Et donc, on va écouter la très, très bien joyeuse pièce « Suicide collectif ». Oreilles sensibles, ne pas vous abstenir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.